On retrouve à hier Caroline Brouet pour la dernière partie, enfin la suite de la grande table.
Oui, merci Antoine Mercier. Nous sommes toujours en direct et en public du Festival international de mode et de photographie d'hier dans le sud, près de Toulon. Donc, pour la 31e édition de ce festival, nous avions envie de poser des questions sur l'évolution de la mode, l'évolution du système de la mode et de son fonctionnement. Et pour ce faire, il nous a paru évident d'inviter le président de la Villa Noailles et du Festival d'hier, qui est aussi le président d'honneur de la Fédération française de couture, de prêt-à-porter et des créateurs de mode. Il a aussi été associé d'Yves Saint-Laurent pendant 20 ans, président de Thierry Mugler pendant 20 ans. On peut considérer cet homme comme le doyen des professeurs de l'Institut français de la mode. J'en passe. Didier Grimbach nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Et bienvenue à la grande table. Pour vous interroger à mes côtés aujourd'hui, nous avons fait appel à Lucas Delattre qui est à mes côtés. Bonjour.
Bonjour.
Lucas Delattre est un ancien journaliste du Monde où vous avez occupé plusieurs fonctions et vous êtes devenu en 2006 le responsable de la communication de l'Institut français de la mode, l'IFM, poste que vous avez occupé jusqu'en 2015. Aujourd'hui, vous êtes chargé des enseignements liés à la communication, aux médias et au digital à ce même Institut français de la mode. Je voudrais qu'on parte de là où nous sommes, Didier Grimbach, aujourd'hui, à savoir la Villa Noailles, pour vous demander si vous considérez que l'évolution de ce festival, puisqu'il s'agit de la 31e édition, correspond ou est le reflet de l'évolution du milieu de la mode.
Oui, tout à fait. Vous avez parlé de l'Institut français de la mode et du festival. Les deux sont nés la même année, en 1986, et il y a toujours eu, depuis le début, à travers Stéphane Varnier, qui était à la communication à l'Institut, avec moi également, puisque j'étais directeur des études à l'époque à l'IFM, nous nous sommes rencontrés de façon très très naturelle jusqu'au jour où, en effet, en rentrant à la Fédération, après avoir été président ici, puisque c'était Jean-Pierre Blanc qui m'avait demandé
qui était
de présider
notre première
l'association,
invité.
Voilà, les choses se sont toujours développées en commun. Et ce qui a été vital et extrêmement important, c'est que à mon entrée, se sont développés ce qui existe toujours sous la direction de Pascal Morand, des rencontres qui faisaient venir des journalistes que vous rencontrez du monde entier, et petit à petit sont venus ici les présidents de grandes maisons, Chanel aussi bien que Dior, aussi bien que Lanvin, etc. Et petit à petit, les deux organismes se sont liés au point que certains administrateurs de la Fédération sont également administrateurs de la Villa Noailles.
La question que je posais, malgré tout, Didier Grimbach, était plus large que celle-ci. Elle a trait plus exactement à l'évolution du milieu de la mode. On peut lire que la mode a vécu une mue depuis une vingtaine d'années, donc ça correspond à peu près au temps qui est celui de l'Institut français de la mode et celui de ce festival, qui a peut-être connu 10 années entre-temps avant cette mue, mais d'une mue de la mode qui serait passée d'un artisanat à une industrie. Alors je voudrais vous demander, puisque vous êtes aussi un historien de la mode, vous avez d'ailleurs écrit un livre sur l'histoire de la mode qui a été réédité en 2008, je voudrais vous demander votre regard d'historien et d'acteur de ce milieu-là. Est-ce que vous considérez que cette mue est réussie ? Est-ce que vous considérez que cette mue peut poser des problèmes ? On va rentrer dans les détails de cette question, bien entendu, mais je voudrais d'abord votre regard général.
Alors, de façon étrange, la mode, ces dernières décennies, a évolué de deux façons. Elle s'est mondialisée. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1973, seules les marques françaises avaient une notoriété internationale. C'est-à-dire Paris a toujours été un élément central. Aujourd'hui, vous avez 25 nationalités dans le calendrier officiel de la mode féminine. C'est étonnant. C'est-à-dire que la mode française n'existe pas. Elle est mondiale. Ce qui défile à Paris, c'est la mode du monde. alors que Milan fait essentiellement défiler des marques italiennes et Londres des marques anglaises, aujourd'hui cet aspect-là est fondamental, tout ce qui est important se passe à Paris. Également, il ne faut pas oublier que votre grand-mère s'habillait sur mesure, que le prêt-à-porter n'existe pas, votre arrière-grand-mère, pardon, oui. Et que, autrement dit, on ne s'habillait pas tout fait. Ça n'existait pas. C'est dans les années 60 que les usines en prêt-à-porter ont commencé à exister. Et aujourd'hui, la couture qui employait dans les années 30 300 000 couturières, on était dans un artisanat extrêmement organisé, s'est transformé, en effet, en industrie high-tech avec la coupe au laser et la nécessité d'avoir des ingénieurs. Donc on est passé d'un artisanat compétitif à une industrie high-tech.
Est-ce que cette industrie high-tech, Didier Grinbach, s'est accompagnée d'une industrie compétitive ? Est-ce que la compétition est encore plus forte aujourd'hui que du temps de l'artisanat ?
On pourrait dire oui, mais il faut reconnaître aussi que des marques fortement exportatrices, qui sont même l'essentiel de nos exportations, sont des marques de luxe qui, d'une certaine façon, ne sont pas compétitives, mais qui, malgré tout, par leur image, par leur savoir-faire, sont beaucoup plus compétitives qu'une mode moyenne gamme, moins chère, et qui existe dans le monde entier. Donc la création qui commence ici, la création est devenue absolument fondamentale pour marques existent. C'est-à-dire qu'une marque en couture aujourd'hui doit être extrêmement créative.
Oui, alors qu'on pourrait penser l'inverse. Simplement, on pourrait se dire qu'en s'industrialisant, la création a perdu sa place prioritaire, que le pouvoir est passé de la création au... de managers, que c'est même quelque chose que j'ai lu, non seulement qu'on est passé du terme de styliste au terme de directeur artistique, ce qui dit peut-être quelque chose, et puis que le styliste, celui qu'on pensait être le styliste à l'époque, est devenu non plus seulement un créateur, mais un entrepreneur avec une proposition artistique. Donc ce qu'on entend dire sur de l'échec de la créativité est faux pour vous, Didier Grinbach. Au contraire, la créativité n'a jamais été aussi forte et aussi importante.
Jamais. Absolument. Jamais aussi importante. Ne peuvent exister produits en France que des marques créatives qui apportent quelque chose à l'international, d'original. Une marque qui vend en Amérique du Nord et en Asie, est forcément une marque créative. Vous ne pouvez exporter que de la création. Ce qui correspond aux tendances n'a aucun intérêt. Si tout le monde est dans les tendances, seuls les créateurs sont en pointe, à contre-marché. C'est parce qu'ils sont à contre-marché qu'ils intéressent le monde.
Lucas Delattre.
J'aurais pris votre question à l'envers, si vous me permettez, puisque comme Didier vient de le dire, ça fait longtemps que la mode est une grande industrie en France. 300 000 ouvrières dans les années 30, c'est considérable. C'était la couture. La couture n'existe plus en tant que telle, en tout cas pas de cette façon. Mais le fait que la mode soit une énorme industrie, ça fait longtemps. Et cette industrie, sa valeur ajoutée, comme on vient de le voir, c'est la création. C'est la communication aussi. Enfin, quand vous décomposez le prix d'un vêtement ou d'un accessoire, aujourd'hui, c'est la création, la communication, le marketing qui font la valeur ajoutée de ce qui est présenté, ce qui est proposé, particulièrement en France. Du coup, on peut se dire que l'industrie a envie de redevenir un artisanat, ou du moins d'avoir l'image d'un artisanat, puisque vous connaissez ce que font les grands groupes de luxe. Ils ouvrent leurs ateliers, ça fait déjà plusieurs années, pour montrer qu'il s'agit d'une industrie de la main, une industrie dont la création est le cœur. Mais enfin, c'est quand même une des très grosses industries françaises. Et puisqu'on est au Festival d'hier, moi ça me frappe toujours, c'est un peu le Festival de Cannes de la mode ici. Et on n'est pas du tout...
Plus ouvert au public.
Voilà. C'est pas la même ambiance. Ça reste plus familial, plus tout le monde se connaît un peu. Il y a beaucoup de gens qui viennent du monde entier, mais enfin, on n'est pas dans une ambiance de tapis rouge. Or, l'industrie de la mode en France, quand vous additionnez tout, enfin, les accessoires, les parfums, c'est-à-dire l'industrie de la création au sens large, c'est énorme. C'est sans doute bien davantage que le cinéma. C'est 150 milliards de chiffre d'affaires, vous voyez. C'est beaucoup, beaucoup, quoi.
Didier Grimbach, je voudrais quand même qu'on prolonge cette question de la créativité et des conséquences de l'industrialisation en vous soumettant des questions qui ont trait à, je sais pas, cette évolution en termes peut-être de temporalité ou de pression. On a vu récemment le départ de créateurs stars de certaines grandes maisons. Alors Edith Slimane chez Yves Saint Laurent, Raf Simons chez Dior, Albert Elbaz chez Lanvin qui a malgré tout été remplacé par Bouchra Jarrar. Et puis il y a eu des affaires dramatiques, hein, le suicide d'Alexander McQueen. On a parlé du quasi burn-out de Christophe de Carnin chez Balmain, etc. C'est-à-dire une ambiance de pression qui se dégage de ça. Ajoutée au fait que le métier a considérablement changé en 20 ans avec cette industrialisation dont vous parliez, et je mets de côté la mondialisation, qui est le mot que vous avez utilisé pour le milieu de la mode française. Mais si je prends l'exemple de John Galliano, en 15 ans, il est passé de 6 collections à livrer par an à 32. Donc, on peut considérer que la place de la créativité quand on doit faire 32 collections par an au lieu de 6 peut être réduite. En tous les cas, on a moins de temps pour être créatif. Et donc, c'est cette tension. Je pourrais donner d'autres exemples. À la fin des années 70, Louis Vuitton possédait 2 boutiques et gagnait moins de 20 millions de dollars par an. Aujourd'hui, Forbes crédite la marque aujourd'hui de 450 magasins et d'un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars. Donc, ça fait partie de cette grande industrie qui est une industrie liée à des groupes superpuissants. On sait le poids que peut avoir dans ces groupes superpuissants la force du management ou la force de la rentabilité. Malgré tout, et malgré ce que vous dites sur l'importance primordiale de la créativité aujourd'hui pour exister, quelle place il reste à la créativité dans ce monde qui demande toujours plus ?
Alors, je crois que chaque marque et chaque maison doit avoir une position différente sur le sujet que vous mettez en avant. C'est-à-dire que c'est strictement impossible que tout le monde, toutes les marques, utilisent le même schéma. Ce que nous avons voulu à Paris, en réinstituant la haute couture, c'est de permettre à des créateurs de mode en prêt-à-porter de rejoindre le calendrier de la couture pour créer un nouveau calendrier. Certains s'y adapteront, Yi Qinglin ou quelques autres, Valli, etc. D'autres se mettront dans une autre position. C'est-à-dire que chaque maison doit utiliser les possibilités que le calendrier leur offre pour avoir une démarche qui leur est propre.
Je fais juste une petite incise. Qu'est-ce que vous appelez le calendrier, Didier Grimbach ?
Alors, depuis toujours, depuis les années 30, depuis que la couture est au centre de nos activités, je veux dire, depuis toujours, le calendrier officiel fait foi. Vous voyez, à New York, vous voulez présenter une collection, vous appelez et vous avez une place. À Paris, rentrer dans le calendrier, ça a toujours été fondamental.
Mais c'est le calendrier des défilés ?
Oui, qui est officiel, le calendrier officiel. Quand vous êtes off, vous pouvez être off, c'est comme dans n'importe quel festival, n'est-ce pas ? Vous pouvez être off, mais vous n'êtes pas cité, et les journalistes, normalement, ne viennent vous voir que quand vraiment la rumeur est telle qu'on ne peut pas ne pas aller voir. Mais avant d'être in, il faut toujours être off. Pierre Cardin n'a été in qu'en 1957. Il a commencé à présenter ses collections en 1953. Donc il a fallu 4 ans pour qu'il soit reconnu. Vous voyez ? Donc la haute couture est un calendrier qui est plausible, que certains utiliseront autrement. Le fait qu'on fasse 10 collections et qu'ils soient toutes présentées, c'est relativement nouveau. Les intercollections, jusqu'à récemment, ne défilaient pas. Et la presse ne s'y intéressait pas. Il y a certainement des moyens de enfin, je crois que je ne veux pas trop élaborer parce que ce sont des questions qui sont débattues à l'international, comme vous le savez. Et si je rentre dans mon point de vue, tout le monde sera très mécontent.
Ah bon ?
Oui, bien sûr. Autrement dit, cette histoire des calendriers est tellement complexe. Le système, ce que veulent les Américains, n'est pas praticable chez nous. La façon dont donc c'est nous qui probablement sur les 10 ans qui viennent allons faire évoluer le système. Rien ne viendra du jour au lendemain.
Mais donc Didier Grimbach, vous confirmez cette course cette course au temps presque, j'ai envie de dire, plus en plus de collections, pour s'inscrire dans ce calendrier, il faut suivre un certain nombre d'étapes qui sont de plus en plus nombreuses. Est-ce qu'on pourrait le formuler de cette façon-là ?
Alors, ce que Raf Simons a annoncé en quittant Dior, c'est qu'il manquait de temps et qu'il n'avait plus le temps de réfléchir. Autrement dit, clairement, il y a un problème à régler. Chacun le réglera à sa façon, mais c'est vrai qu'une maison sans moyens considérables ne peut pas suivre ce rythme.
Dolce Gabbana, Armani Versace, Gucci Fiorucci Fendi Ferre. Côtier Dior, Givenchy, Cartier, Chanel, Trussardi, Kenzo, Rolex et Guerlain.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
C'était un extrait du Fashionistus Sacral Core du groupe Waldorf. Bien entendu, c'est lui qui a donné un certain nombre de marques. Vous savez qu'il faut qu'on fasse attention sur le service public, il n'a pas donné beaucoup de marques, mais lui, il a transformé ces chants baroques sacrés en catalogue de marques. Nous sommes ici au Festival international de mode et de photographie à Hyères, en compagnie de Didier Grimbach, qui est président d'honneur de la Fédération française de couture, du prêt-à-porter des créateurs de mode et le président de la Villa de Noailles et du Festival d'Hyères. Nous nous intéressons à la mue du milieu de la mode, de l'artisanat à l'industrie et à ses conséquences. Pour interroger Didier Grimbach à mes côtés, l'ancien journaliste du Monde, Lucas Delattre, qui a été le responsable de la communication de l'Institut français de la mode pendant près de 10 ans et qui est aujourd'hui chargé des enseignements liés à la communication, aux médias et au digital à ce même IFM. Lucas Delattre.
Oui, Didier, une question. Comment, dans ce contexte, on voit bien dans ce qu'on vient d'évoquer avec vous qu'il y a une différence d'approche entre les États-Unis et l'Europe, pour résumer les choses, avec une Europe beaucoup plus axée sur la création et peut-être une mode américaine beaucoup plus axée sur le marketing. En tout cas, c'est comme ça que les officiels français présentent les choses. Et l'enjeu politique numéro un aujourd'hui, c'est l'enjeu du calendrier, comme on vient de le voir. Et dans quelles conditions Paris peut-elle rester une capitale de mode dans les 10, 20, 30 années à venir, sachant que le contexte est quand même un contexte, certains parlent de guerre.
Bien. Didier Grimbach.
Tant que la fédération aura une approche sélective, et Dieu sait si c'est difficile dans ce domaine de tomber à un accord, parce que chacun a son mauvais goût, à dire vrai. Donc sélectionner et choisir, c'est toujours très difficile, mais ça a toujours été fait en France. Même dans les années 30, les marques qui occupaient le centre du calendrier étaient les grosses maisons qui étaient les plus exportatrices. Donc ce qu'il y a de particulier à Paris, c'est que rentrer dans le calendrier, ça demande un parrainage, un vote. Alors que, par exemple, à New York, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde peut défiler.
Oui, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait près d'un millier de défilés à New York, par exemple, alors qu'à Paris, c'est plutôt 92.
Oui.
Environ, vous qui avez orchestré des défilés de la Semaine de la Mode, Didier Grimbach, C'est ça, mes chiffres sont bons pour qu'on ait une idée.
Pour moi, que le calendrier français soit volontairement international, mondial, qui est aussi bien, il s'est mis à quelques Rick Owens, au cœur du calendrier français, qui n'est plus français mais mondial. Tant qu'on occupe, qu'on garde cette position et qu'on est extrêmement attentif aux marques qu'on accepte et à celles qui refusent et qu'on a des règles précises pour cela, c'est ce qui nous donne un avantage. Peu importe quand Paris défile en dernier, on n'a jamais changé de point de vue là-dessus. Donc je pense qu'il faut pas changer notre façon de faire et éventuellement utiliser le calendrier de la couture qui est unique au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et le fait que nous y ayons intégré le prêt-à-porter nous donne des possibilités. Mais encore une fois, ces possibilités ne seront pas les mêmes dans chaque maison. Il faudra que chacun utilise, suivant son marché, un système aussi original que possible.
Lucas Delattre évoquait une guerre, enfin une quasi-guerre entre conception européenne et conception américaine, Didier Grimbach. Et en même temps, vous vous répondez, New York d'un côté, Paris de l'autre. Quid des autres places européennes? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre, ou une alliance possible entre Paris et Milan, par exemple? Londres?
Bien, jusqu'à maintenant, le rêve d'un créateur, c'est de défiler à Paris. Alors, je ne connais pas de créateurs qui défilent à Paris et qui ont envie de défiler ailleurs. C'est très prétentieux ce que je vous dis là, mais je crois que c'est la réalité.
Cette année, au festival d'hier, 4 candidats sur les 10 sont des candidats japonais, Didier Grimbach. Tokyo n'est pas une capitale de la mode ?
Écoutez, Issey Miyake, qu'on célèbre cette année, a défilé à Paris depuis 1973. Toutes les marques japonaises importantes ont défilé ou défilent à Paris. Et sont membres de la fédération. Et c'est vrai pour Yoji Yamamoto, c'est vrai pour Comme des garçons. Et clairement, les Japonais ont changé la mode française. Ça veut dire la mode mondiale. Les femmes, en Yoji Yamamoto, marchent autrement. Elles se comportent autrement. C'est la mondialisation.
Lucas Delattre.
C'est là qu'on voit l'épaisseur de l'histoire. Parce que c'est quand même très mystérieux, cette prédominance de Paris qui se maintient au-delà de toutes les vicissitudes et de tous les changements dont vous parlez.
Bien, c'est comme la Villa Noailles qui existe par les Noailles et par Jean-Pierre Blanc. On peut dire, ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est l'histoire de nos métiers qui confirme que Paris a un rôle particulier. Après le crash de 1929, la couture qui n'était plus compétitive, parce que les Américains avaient par exemple des droits de douane de 90% qui jusque-là n'existaient pas, et les couturiers ont vendu leurs créations alors puisqu'ils ne pouvaient plus vendre leur production. Et donc pendant des décennies, jusqu'en 1970, les acheteurs du monde entier venaient à Paris pour acheter des modèles à copier. Évidemment, on a oublié cette période, mais elle a été fondamentale. Je veux dire qu'une maison comme Bergdorf Goodman à New York venait à Paris pour sélectionner chez Balenciaga, chez Grèce, chez Saint-Laurent, chez Dior, etc., les modèles qui allaient composer leur offre qui était reproduite aux États-Unis. Donc les Français, pendant toutes ces périodes, ne vendaient que leurs créations. C'était le bureau de style du monde entier. Ce qui explique pourquoi les marques françaises ont un tel pouvoir. C'est-à-dire qu'on a conservé les marques les plus connues, c'est-à-dire qui ont alors là de nouveaux directeurs artistiques. Il ne faut pas oublier que quand Yves Saint-Laurent, quand Dior et Balmain ont ouvert leur jeune maison en 46-47, c'était des très jeunes créateurs. Ils siégeaient à côté de Paquin ou de Vought, qui étaient des marques centenaires. Donc on a toujours eu une mode qui se renouvelait. La différence avec ce qui se passait dans ces années-là, c'est que notre renouvellement, là, est international et que nous avons Rick Owens américain ou Yoji Yamamoto japonais dans notre calendrier officiel. Donc on voit bien comment cet ensemble a évolué dans la durée.
Puisque nous parlons de l'évolution dans la durée, Didier Grimbach, vous avez commencé tout à l'heure par regarder le milieu avec beaucoup de mise en perspective en disant que l'un des premiers signes de l'évolution, c'était la mondialisation, avec Paris comme capitale de la mode. Est-ce que l'autre volet de cette évolution ne tient pas au fait qu'il y a eu comme un rapprochement ou peut-être même un renversement des forces entre le prêt-à-porter et la couture, dont d'ailleurs vous avez fait partie, puisque vous, dans les défilés, vous avez fait entrer des marques plutôt traditionnellement considérées comme de prêt-à-porter dans les défilés couture. Et est-ce qu'il ne faut pas rapprocher ce rapprochement, le prêt-à-porter couture, d'un phénomène de massification, moyennisation, démocratisation de la mode, je ne sais pas trop bien quel mot utiliser, mais cette multiplication des marques moyennes, disons, entre le luxe et le bas prix, on les voit partout, je ne vais pas donner de marque. Voilà, le luxe abordable, voilà, merci. Le luxe abordable, merci Lucas Delattre. Didier Grimbach, ce phénomène de rapprochement.
Bon, le luxe abordable, c'est une expression que j'aime pas beaucoup.
Ah, raté.
la création. Remarquez, chez Hermès, ça paraît très drôle. Vous voyez, quand on voit la perfection de chaque produit, est vrai chez Chanel, etc. Ce n'est donc l'histoire. Le volume se fait là sur des pièces chères. Autrement dit, on arrive à industrialiser les marques les plus luxueuses, et la difficulté, en effet, est sur ce qu'on appelle l'abordable, qui est intermédiaire
qui est
et donc
milieu.
Un peu en difficulté. Moi, j'ai pas de.
On a la sensation, quand on regarde ça de loin, c'est pour ça que je m'adresse à vous qui regardez ça de près, que le prêt-à-porter s'est élargi et qu'il a presque remplacé la couture. Et quand je dis prêt-à-porter, cet élargissement avec les marques intermédiaires, je fais des grands gestes avec mes bras, personne ne voit sauf ceux qui sont dans le public, mais pas les auditeurs, et puis les marques à bas prix, qui occupe vraiment le milieu. Et là, c'est peut-être la consommatrice, la cliente qui parle. Hein. Quelle place, quel avenir pour les maisons de luxe avec cette évolution-là?
Alors d'abord, pas oublier que Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler, qui sont issus du prêt-à-porter, sont passés en couture à la demande des couturiers en 1997. Et que la même année, Galliano rentrait chez Dior et McQueen chez Givenchy. Autrement dit, il y a un moment où tout cet ensemble s'est associé. Parce que les maisons comme Dior et Chanel préféraient d'avoir Thierry Mugler dans leur calendrier, si je peux dire encore, que d'avoir des maisons de couture mineures qui n'avaient pas de notoriété internationale. Donc le prêt-à-porter et la couture, à un moment, ont fusionné. Il était accepté de tout temps que l'industrie ne pouvait pas être créative. Pendant des années, les couturiers ont pensé, mais les confectionneurs également, que seul l'artisanat pouvait être créatif. Et ce qui a effectivement changé, c'est que les marques en prêt-à-porter, elles-mêmes sont devenues extrêmement créatives et fortement exportatrices. La couture étant un savoir-faire qui est devenu la partie supérieure du prêt-à-porter. Ce qui est devenu strictement impossible, c'est qu'un créateur dise « voilà ma couture, voilà mon prêt-à-porter ». C'est profondément irritant. Quand la marque est toute petite, qu'elle veuille s'exprimer dans les deux domaines, c'est compliqué. Certains y arrivent cependant, donc il faut prendre ce que je dis avec des pincettes. Mais la réalité quand même est qu'aujourd'hui, couture et prêt-à-porter se complètent, qu'il n'y a pas de raison d'avoir deux classifications et que petit à petit, le calendrier de la couture deviendra le calendrier français, c'est-à-dire le calendrier créatif et
mondial.
Oui.
Cuisse nue, bottes de cuir, mini vêtue, ras du minou, suis-tu la mode pour ton plaisir ou cherches-tu à me rendre fou? Arrête-toi de raccourcir, pour nous les hommes, c'est un martyr. Oh, cuisse nue! Bottes de cuir, ras du minou, sein d'angora. Toi tu t'en fous de leurs soupirs, mais un beau jour, prends garde à toi. C'est un bourgeois devenu Borgia qui te clouera entre ses bras. À cuisse nue, bottes de cuir, bottes en tissu, bottes à vernir, bottes en l'année, pour la soirée, bottes en machin, pour le matin, pour te garder mon érotique, je t'offrirai toute la boutique.
C'est un petit clin d'œil, Didier Grandbach, puisqu'on on est dans l'histoire et l'évolution de la mode. On entend là Philippe Nicot, tout début des années 70, chantant « Cuisse nue et bottes de cuir ». Juste pour vous poser une dernière question concernant cette arrivée, depuis quelques années, sur le marché mondial de la mode, de ce que les marques, les enseignes appellent la mode pudique. Est-ce que vous avez un avis sur cette question ?
Sur la mode.
La mode pudique.
Pudique.
C'est comme ça que les enseignes l'appellent. C'est arrivé en France sous une autre expression qui est la mode islamique. En gros, on voile, on recouvre le corps de voiles et de vêtements amples qui cachent le corps.
Là, j'ai pas un point de vue affirmé. Je constate qu'il y a des collections de mode qui sont basées sur ce principe, etc. Mais je pense que c'est assez marginal. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui me passionne.
Lucas Delattre ?
Non, c'est surprenant de voir à quel point le sujet est sensible en France. Moi qui ai des étudiants étrangers, on est vraiment unique dans le monde, dans notre conception de la laïcité, que personnellement je comprends parfaitement étant né ici et ayant la culture française. C'est très difficile de faire comprendre à de jeunes étrangers qu'on ne peut pas s'habiller comme on veut. Et dans les débats très vifs qui ont eu lieu récemment, on constate d'abord que l'enjeu de l'habillement est un enjeu politique très important.
Oui.
Et deuxièmement, qu'on peut très vite se disputer très fort sur un sujet comme ça. Du coup, notre conception de la liberté, qui est très particulière, n'est pas partagée par tous. C'est juste un constat, sans prendre de position. Et c'est compliqué de faire comprendre ça à des jeunes étrangers.
En tous les cas, ça n'est pas un sujet de rencontre ici, puisqu'il y a, pendant le festival, des rencontres internationales, faites de tables rondes dans le jardin de la Villa de Noyon. Nous sommes là pour la grande table, rencontre que vous avez initiée, Didier Grandbach, il y a une quinzaine, peut-être même une vingtaine d'années. Au menu des tables cette année, par exemple, la fashion tech, c'est-à-dire la révolution du numérique dans le système de la mode. Et puis une autre rencontre sur les enjeux du développement durable. Ma feuille s'envole parce que le Mistral, on nous l'avait promis, commence à se lever. Les enjeux du développement durable, c'est une question majeure pour la mode et qui est peut-être l'une des industries les plus polluantes au monde. Voilà, donc venez, public, assister à ces rencontres, peut-être même participer à ces rencontres. Je vous remercie, Didier Grandbach, d'avoir participé à cette émission en direct ici d'hier. Merci à vous, Lucas Delattre. Et merci aux équipes techniques ici, Hervé Dubreuil et Benjamin Chauvin. À la réalisation, c'était Philippe Baudouin et Jeanne Aléos m'a aidé à préparer cette émission. Merci à tous de l'avoir écouté, en particulier ceux qui sont ici en direct.